Radio de la Paix, il est 12h. Le journal de midi, Mardoché Kouassi.
Vous suivez la grande édition de la mi-journée sur Radio de la Paix. Madame, Monsieur, voici les dominantes de l'actualité. La répartition des sièges des députés pour les prochaines législatures doit tenir compte de la densité de la population. C'est le président de la CEI qui l'a indiqué lors d'une réunion tenue jeudi dernier avec les potentiels candidats. Des journalistes et influenceurs de la région du Poro ont été récemment formés pour une couverture électorale responsable, une initiative de l'ambassade des États-Unis d'Amérique en Côte d'Ivoire. Hors de chez nous en Afrique du Sud, le chef d'état-major de l'armée est au cœur d'une tempête diplomatique pour avoir tenu des propos d'ordre politique. Et puis le dossier d'actualité de ce jour proposé par Ismaël Ango s'intéressera à la reprise de la pêche artisanale à Boboudoumé, commune d'Atékoubé, après le repos biologique. Un dossier qui sera suivi de l'invité de la rédaction, qui est aujourd'hui le docteur Landry Amoussou, spécialiste en droit administratif. Avec Constant Maillet, il reviendra sur la rénonciation à la nationalité française de l'ancien Premier ministre Achille Patrick, non sans faire une comparaison avec le cas Kylian Thiam, président du PDCI RDA. Voilà pour le sommaire. C'est la Radio de la Paix qui vous informe. Bonjour et bienvenue. Je vous le disais en titre, la répartition des sièges des députés pour les prochaines législatures doit tenir compte de la densité de la population. C'est l'avis du président de la CEI, Commission électorale indépendante, Ibrahim Koulibaly-Cuibière, qui répondait jeudi dernier aux préoccupations du futur candidat aux législatives. Ces derniers dénoncent un déséquilibre du découpage électoral. Selon le président de l'organe en charge des élections, la décision de modifier ce découpage relève d'abord du pouvoir politique. Ibrahim Koulibaly-Cuibière.
Il faut qu'on tienne compte du nombre de sièges dans les circonscriptions parce que les sièges permettent d'élire des gens qui sont porteurs de la voix de la population. Mais si cette population est dense pour une personne, la seule personne ne peut pas porter la voix de toute une majorité. Il faut qu'il y ait plusieurs personnes pour porter cette voix, pour qu'au moins la voix soit entendue. Et c'est tout à fait normal. Je crois que nous, on fera ce qu'on peut faire, mais nous ne sommes pas l'exécutif. Mais n'oublions pas que cet aspect relève hautement de la politique. J'ai l'inconvénient de dire ce qui est, et ce n'est pas maintenant. Aux États-Unis, le découpage électoral, vous savez comment on l'appelle, gerrymandering. C'est du nom d'un gouverneur en charge du découpage qui avait découpé en tenant compte de ses intérêts. Et son découpage ressemblait à un reptile. Donc, eux, ils ont qualifié ce découpage-là de salamandre parce que ça ne correspondait pas à la vérité pour dire qu'il y a toujours une dose de politique là-dedans. Mais dans tous les cas, comme vous l'avez si bien dit, il faut tenir compte de la densité de la population pour affecter des sièges. Nous allons porter cela à l'attention du gouvernement pour qu'on tienne compte de cet aspect que je trouve aussi important comme vous. Ah non, pour ces élections, bon, nous on fait des propositions pour ce qui concerne ces aspects-là. Ça relève hautement de la politique.
Ibrahim Koulibaly-Cuibière, président de la CEI. Faisons à présent un tour à Korogo, où des journalistes et influenceurs de la région du Poro ont été formés pour une couverture électorale responsable et aussi à être des gardiens de la paix électorale par leurs écrits et autres publications. Une initiative de l'ambassade des États-Unis d'Amérique en Côte d'Ivoire qui rentre dans le cadre des préparatifs de la prochaine présidentielle en Côte d'Ivoire. Tommy Corona nous en dit plus.
Sur les raisons et motivations de l'initiative, Derrel Kenedo, attaché de presse à l'ambassade américaine.
Objective of this training is to increase the capacity of journalists, especially
l'objectif de cette formation est de renforcer la capacité des journalistes à identifier les fausses informations et à donner au public l'information correcte. En démocratie, il est important de lutter contre les fausses informations afin de s'assurer que le public a l'information dont il a besoin.
Une session animée par Félix Dibi Boni, principal formateur. Il abonde dans le même sens.
Pour moi, les journalistes doivent jouer leur rôle de façon très professionnelle pour ne pas qu'ils soient indexés comme des acteurs qui auront mis de l'huile sur le feu, qui ne pas jouer le rôle des partis politiques ou des acteurs politiques à leur place, mais qui jouent leur rôle de journaliste de ce qu'on ait des élections transparentes, équitables, inclusives, mais surtout apaisées au bout du scrutin et qu'on ait un président qui soit accepté pour tous.
À entendre ses participants, la formation arrive à point Wanome, témoignage.
Ange Claudia Mondon, influenceur du réseau des influenceurs pour la résilience communautaire de la région du Port. On a parlé d'éthique. Ce sont des choses que je ne prenais pas en compte auparavant dans mes actions.
Silas Koulibaly de Radio Peleforogon Korogo. Ce que je retiens, c'est que le journaliste doit être mieux outillé quand il s'agit de période électorale parce que c'est sensible. Donc il y a certainement une manière de faire qui va un peu plus au-delà de ce qu'on a l'habitude de faire, je veux dire, dans le quotidien.
La rencontre s'est achevée par la remise d'attestation à la trentaine de bénéficiaires. Tommy Corona, Korogo, Radio de la Paix.
Un escale à présent à San Pedro où, à l'initiative de l'ONG Charité Vie, il a été organisé récemment un atelier régional d'analyse de la sensibilité au conflit dans la localité. Objectif, amener les organisations de la société civile à faire l'analyse des situations susceptibles d'entraîner des conflits afin d'y apporter des solutions. Des détails avec Kofi Benson, correspondant à Radio de la Paix dans le Bas-Sassandra.
Dans toutes les communautés, il existe toujours des conflits qui sont soit latents ou ouverts ou encore violents. Cet atelier est donc un outil pour faire l'analyse de ces conflits, selon Daris Toali, chef de projet à l'ONG Charité Vie.
Il était question d'aborder la sensibilité au conflit avec le volet axé sur les droits de l'enfant. C'est le moment opportun de discuter de la question de conflit parce que nous savons que les périodes électorales aujourd'hui sont très sensibles. Et pour nous, en tant qu'organisation de la société civile, il serait très important d'avoir une démarche plus inclusive par rapport à toutes nos initiatives que menons dans la communauté. Il faudrait déjà contribuer surtout à la cohésion sociale parce que nous recherchons le bien de la communauté. Parce que toutes les actions que menons ont des impacts et pour nous, il serait question d'analyser ces impacts-là pour minimiser nos impacts négatifs et maximiser nos impacts positifs.
Pour Briga Agathe de la clinique juridique de San Pedro et Krakwadjo Hervé, président de l'ONG Appui pour la prospérité universelle, cet atelier est salutaire.
À travers ces données que nous avons eu, nous pouvons déjà, au niveau même familial, anticiper sur tout ce qui est conflit et au niveau communautaire.
Je pense qu'à cette rencontre, on a pu détecter certains indices de conflit. Il arrive des fois où il y a des actions que nous menons, mais nous n'avons pas détecté que par derrière, on pourrait laisser des actions de conflit. Un exemple, l'équipe scolaire que nous avons partagé, ce que nous ne faisons pas et qui pourrait engendrer des conflits, c'est que nous n'avons pas sensibilisé certaines communautés qui ne bénéficient pas de ces kits scolaires.
Des cas pratiques d'analyse de conflits ont été proposés aux participants. Kofi Benson, San Pedro, Radio de la Paix.
Retour à Abidjan avec le procureur du tribunal de première instance du plateau, Brahma Oumar Kone, qui a instruit des journalistes sur les infractions liées à la loi sur la presse et les risques pénaux encourus par les professionnels du secteur. C'était le jeudi 14 août dernier dans le cadre de la 39e session de l'Académie de l'ANP, Autorité nationale de la presse, dont le thème était justement axé sur les défis de l'information en période électorale. Des précisions avec Ismaël Ango.
Lors de la 39e session de l'ANP, le procureur du tribunal d'Abidjan Plateau, Brahma Oumar Kone, a échangé avec des journalistes. Son message est clair. Si la loi sur la presse de 2017 protège la profession pour les délits de presse, elle ne lui confère en aucun cas une immunité totale face à la loi sur la cybercriminalité.
La loi portant régime de la presse, c'est-à-dire la loi de 2017, interdit au procureur de la République de garder à vue un journaliste, de le déférer. C'est vrai que cette loi dit qu'il peut encourir que des condamnations pécuniaires, mais la loi sur la cybercriminalité s'applique à tous les citoyens, sans exception. Donc, il fallait parcourir ces différents tests avec les journalistes et les inviter à beaucoup plus de responsabilités en cette période préélectorale.
À la fin de la session, les participants sont repartis avec des savoirs actualisés pour le président de l'ANP, Samba Kone. L'enjeu est d'appliquer au quotidien les textes de loi afin d'assurer une couverture médiatique responsable, surtout à l'approche des élections.
J'espère en tout cas qu'ils vont tenir compte de cela dans leur production éditoriale, surtout en période électorale où nous devons tous contribuer à l'apaisement, à une cohésion sociale.
Avec les élections en ligne de mire, les journalistes sont donc face à un double défi, informer sans alimenter les tensions et préserver l'unité sociale sous peine de sanctions.
Les épreuves du concours direct d'entrée à l'INFAS, Institut National de Formation des Agents de Santé, ont été lancées samedi dernier à Daloa. Ce concours a été délocalisé depuis l'année dernière dans la cité des Antilopes et dans d'autres villes de Côte d'Ivoire pour faciliter la participation des candidats et la formation des agents de l'intérieur du pays. Les superviseurs du concours et les autorités de la ville ont saisi l'occasion pour appeler les candidats à la probité. Jean-Noël Kwame pour le compte-rendu.
Un peu plus de 12 700 candidats prennent part à ces épreuves de ce concours direct. Le professeur Yao Victor, conseiller technique de la directrice générale de l'Institut national de formation des agents de santé, veille au bon déroulement des épreuves.
L'année dernière, nous avons élargi les centres de composition. Aujourd'hui, c'est le concours des infirmiers et infirmières. Ils ont trois matières, le français, sciences de la vie et de la terre et culture générale. Une compilation de 60 questions, c'est le programme du nouveau bac. Le ministre de la Santé nous a instruit de commencer à mettre la notion de l'excellence depuis l'organisation des concours. Les concours d'entrée à l'INFAS, l'admission se fait par le travail.
Le secrétaire général de préfecture, Keipo Emmanuel, a insisté pour sa part sur les notions d'éthique et d'ivoirien nouveau.
À l'endroit de nos jeunes candidats, c'est d'avoir un comportement éthique. Au niveau de l'INFAS, la matière sur laquelle ils auront à travailler, une fois sorti de leur formation, c'est l'homme. Il faut qu'il mérite d'être admis à ce concours en travaillant. Il n'est pas question de tricher. L'Ivoirien, le fonctionnaire nouveau exemplaire, ne peut pas être s'il n'y a pas dès le départ ce message. C'était une chance en délocalisant ces concours. Nos candidats, plutôt que de se déplacer jusqu'à Abidjan, c'est une opportunité en restant sur place.
Au total, 146 800 candidats sont inscrits à ce concours national des agents de santé dans les différents centres de composition d'Abidjan, Boaké, Dalo et Korogo. Jean-Noël Kwame, Daloa, Radio de la Paix.
Tout autre chose à présent, la Côte d'Ivoire a pris part du 12 au 14 août dernier à Cape Town en Afrique du Sud au sommet africain sur les investissements dans le secteur de l'eau. Présente avec un portefeuille de 9 projets matures évalués à plus de 126 milliards de francs CFA, la délégation ivoirienne a activement plaidé pour le financement du secteur de l'eau et de l'assainissement. Écoutons à ce propos Dr Yeo Eugène, directeur général des ressources en eau au ministère des Eaux et Forêts.
Nous avons traditionnellement nos partenaires au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire on a la Banque mondiale, on a la Banque africaine de développement. Mais en venant ici, nous avons pu avoir donc une collaboration avec plusieurs partenaires, notamment l'initiative climatique pour le développement. Nous avons également renforcé notre coopération avec la GIZ. Nous avons renforcé notre collaboration avec plusieurs autres partenaires et nous avons des promesses de financement. Mais il faut dire que cette tribune est l'une des premières. C'est-à-dire l'Union africaine s'est rendue compte que aujourd'hui, dans tous les pays, le secteur de l'eau et de l'assainissement est sous-financé. C'est-à-dire quand on regarde les budgets de chaque nation, de chaque pays, et c'est à peine qu'on arrive à 5% au niveau du secteur de l'eau et de l'assainissement. Or, aujourd'hui, si on ne change pas cette tendance, on ne pourra pas atteindre les objectifs que nous sommes fixés. Donc, il est important que des financements locaux, c'est-à-dire avec le secteur privé dans chaque pays, mais également nos partenaires traditionnels, puissent davantage s'investir dans le secteur de l'eau et de l'assainissement.
Vous venez d'écouter Dr Yeo Eugène, directeur général des ressources en eau au ministère des Eaux et Forêts. Hors de chez nous, 24 établissements publics pourraient fermer sur l'île de la Grande Comore pour plusieurs raisons, notamment les grèves répétées des enseignants, la prolifération des écoles privées qui vident les classes publiques et un budget jugé trop lourd avec plus de 17 milliards de francs comoriens prévus pour l'éducation cette année et près de la moitié de la masse salariale nationale dédiée au secteur de l'éducation. Parents et enseignants dénoncent un coup fatal porté à une école publique déjà fragilisée. Et puis en Afrique du Sud, le chef d'état-major de l'armée est au cœur d'une tempête diplomatique. Invité le mardi 12 août dernier en Iran, il y a tenu des propos d'ordre politique, affirmant que la nation arc-en-ciel partage des objectifs communs avec la République islamique d'Iran. Il a aussi dénoncé les actions d'Israël dans la bande de Gaza et en Cisjordanie. Des propos qui ne tombent pas très bien pour le gouvernement sud-africain qui tente de raccommoder les relations diplomatiques avec les États-Unis. Comme annoncé en titre, le dossier d'actualité de cette édition est consacré à la reprise de la pêche artisanale à Bobo-Doumé, commune d'Atékoubé, après le repos biologique. Après un mois d'inactivité décidé par le gouvernement pour permettre la reconstitution des ressources halieutiques, le port de pêche artisanale d'Abobo-Doumé dans la commune d'Atékoubé retrouve enfin son effervescence. Mais au-delà des pirogues qui accostent et des filets pleins de poissons, c'est toute une communauté qui renaît, comme Constant le constate. constate Ismaël Ango dans ce reportage.
À Bobo-Dioumé, la longue attente est terminée. Après un mois de pause, le port de pêche artisanale se réveille. Les pirogues sont de retour, leurs filets remplis de poissons. Pêcheurs et revendeurs comme Franck se bousculent déjà pour le butin du jour.
Dieu merci, ils ont ouvert l'eau. Donc ça nous permet aussi de nous occuper de nos enfants. Tout ça, les pêches à 90 000. Ah, c'est ton rouge, il y a ton blanc, il y a ton abaco. Souvent, il peut gagner 15 000, 25 000. C'est le marché, quoi.
Un peu plus loin, sur le marché, l'activité est tout aussi intense pour la vendeuse Sally Josiane. A aussi, sur son étal, les poissons sont déjà triés, lavés et prêts à être vendus.
Vraiment, c'est une joie pour nous. J'ai pu vendre des poissons, donc ça dépasse 200 000. Ça correspond à 5 à 6 bassines. J'ai vendu pour des 35 000 et puis le reste, les pots des 50 et quelques 000. Ça peut sortir au moins 20 poissons ou plus que ça. Quand c'est les petites pièces, ça dépasse 100 poissons.
La reprise, ce sont aussi les clientes qui en profitent. Madame Kwame, une habituée, est ravie de retrouver son marché et ses produits préférés.
On est venu, tout se passe bien. Il y a du poisson, le prix aussi est abordable. Il y a 2000, il y a 1000 francs.
1000 francs, il y a combien de poissons?
3 poissons à 1000 francs, 5 poissons à 2000.
Une joie, oui, mais avec un goût amer. Pour le responsable des pêcheurs artisanaux, Akoun, la suspension de l'activité est intervenue en pleine saison. Un coup dur au moment où les captures étaient les plus abondantes.
On a fermé la pêche, là. On ne trouvait pas la manger, mais comme on a bouvé la pêche, là. Il y a quand ça qu'il y a poisson. Il y a eu beaucoup, mais il n'a pas l'argent dedans. Parce qu'il est venu moins cher. Parce qu'on l'a gâté comme ça.
Sur le port de pêche artisanale d'Abobo-Dioumé, les pirogues ne sont plus des silhouettes silencieuses. Elles sont le symbole d'une communauté qui se relève jour après jour. Les filets se remplissent de poissons et les cœurs, eux, se remplissent d'espoir. Le bruit de la vie a repris.
Merci à Ismaël Ango pour ce dossier sur la reprise de la pêche artisanale au port d'Abobo-Dioumé. On en vient à présent à l'invité de la rédaction qui est aujourd'hui le docteur Landry Amoussou, spécialiste en droit administratif. Au micro de Constant Maïlé, il revient sur la renonciation à la nationalité française de l'ancien premier ministre Haché Patrick, non sans faire une comparaison avec le cas Tidiane Thiam, président du PDCI-RDA. Une entrevue à suivre maintenant.
Docteur Landry Amoussou, vous êtes spécialiste du droit administratif. Selon vous, quel sens on peut donner à cette renonciation de la nationalité française qui vient d'être enregistrée il y a de cela quelques jours de l'ancien Premier ministre Patrick Haché?
En réalité, c'est une décision, effectivement, qui est une initiative personnelle, renoncer à sa deuxième nationalité. Mais on est obligé de faire un lien avec peut-être les ambitions politiques des anciens premiers ministres.
Pourquoi c'est maintenant que Haché Patrick renonce à sa nationalité française?
Justement, c'est une démarche qui avait été prise il y a longtemps et peut-être qu'ils viennent maintenant de l'officialiser. Je pense qu'il y a une démarche qui avait été faite depuis longtemps. Ça augure forcément un duo avec le président Ouattara. Donc, je pense que le timing nous suggère d'entrevoir cette...
D'y penser sérieusement.
Je pense.
Comment est-ce que cette renonciation des nationalités est différente de celle de Tidiane Thiam? En quoi c'est différent dans les deux cas?
C'est le même débat qu'il y a eu avec la double nationalité de plein droit ou celle qui avait été acquise à la naissance. Je pense que le débat portait sur la qualité. Parce qu'en réalité, cette double nationalité, n'oubliez pas qu'en droit ivoirien, elle suggère deux cas. Soit l'individu a renoncé à sa double nationalité ou le cas où il avait sollicité la nationalité française. Mais dans les deux cas, la question effectivement mérite d'être discutée auprès du Conseil constitutionnel, mais on verra également si M. Haché Patrick effectivement n'est pas dans la même situation que M. président Thiam du PDCI. Je crois que les deux ne sont pas dans la même situation. Comme je disais tantôt, c'est une démarche qui s'inscrit peut-être dans le duo et on verra les arguments qui seront effectués. justement invoquée pour savoir si cette renonciation entre dans l'article 55 ou 54 de notre constitution.
Au niveau des critères pour être élu député en Côte d'Ivoire et pour être élu président, on dit que les critères sont souvent semblables, mais est-ce que un candidat à l'élection législative doit être exclusivement ivoirien?
La constitution n'évoque que cette possibilité pour les élections présidentielles.
Comment est-ce qu'on peut expliquer le fait que l'ex-premier ministre Patrick Hachi, qui a une double nationalité, se retrouve sur la liste électorale alors que M. Thiam en a été radié justement pour une question de double nationalité?
Cette question de double nationalité renvoie à deux situations différentes. Vous avez un individu qui est français depuis la naissance. M. Patrick Hachi est né en France en 1955. Donc il a la double nationalité de plein droit. Et de plein droit, il peut s'inscrire sur la liste électorale. Ce que j'ai cru entendre, ce qu'on reprochait au président Thiam, c'est qu'il avait sollicité la nationalité française. Et une fois qu'on la sollicite, bien entendu, on est plus ivoirien. Donc la question était à ce niveau. Et d'après ce qu'on a cru entendre, à partir du moment où cette question a été vidée, ce contentieux a été vidé, la question de sa nationalité ne pose plus problème. Il est ivoirien, mais au moment où il s'inscrivait sur la liste, on estimait qu'il y avait effectivement cette possibilité qu'il était effectivement français, ou qu'il n'était pas avec un main ivoirien. Voilà la grande question qu'il y a eu à ce niveau. Finalement, ce qu'on a cru comprendre également des différents communiqués qui ont été donnés, c'est que la question étant réglée, il pourra s'inscrire sur la liste prochainement. À la prochaine RLU qui sera organisée, là, il n'y a pas de souci. Tous les signes sont ouverts, il pourra effectivement s'inscrire sur la liste. Alors que dans la situation de M. Patrick Hachi, elle est différente. Il a la double nationalité de plein droit. Mais c'est ce que je disais tantôt. Toutes ces conditions de nationalité seront forcément débattues parce que vous comprenez qu'il y aura forcément des actions de l'opposition contre effectivement ces candidatures. Même pour le président Ouattara, vous allez voir que lorsque la CEI va proclamer les résultats définitifs des candidats, vous verrez qu'il y aura un contentieux qui va s'ouvrir. C'est quelque chose de normal dans nos pays ici, avant les échéances électorales. Nous sommes dans le délai, il nous reste largement le temps, il reste encore 2 mois, on a largement le temps pour
régler. Pendant que l'opposition réclame beaucoup de revendications du côté de l'opposition.
Oui, mais l'inconvénient aussi, c'est qu'il faut que vraiment on tourne la page de ces élections rapidement, qu'on passe à autre chose. Je pense que l'opposition et puis le pouvoir, ils ont toujours trouvé un terrain d'entente pour que ces élections-là se passent dans des conditions apaisées, même si effectivement on ne pourra pas satisfaire tout le monde.
Docteur Landry Amoussou, je vous remercie.
Merci beaucoup à Radio La Paix.
C'était à l'instant une entrevue réalisée par Constant Maillet dans le cadre de l'invité de la rédaction avec le docteur Landry Amoussou, spécialiste en droit administratif. Et c'est ce qui marque la fin de cette édition, mais on rappelle l'essentiel. La répartition des sièges des députés pour la prochaine législature doit tenir compte de la densité de la population. C'est le président de la CEI qui l'a indiqué lors d'une réunion tenue jeudi dernier avec les potentiels candidats. Des journalistes et influenceurs de la région du Poro ont été récemment formés pour une couverture électorale responsable, une initiative de l'ambassade des États-Unis d'Amérique en Côte d'Ivoire. Hors de chez nous en Afrique du Sud, le chef d'état-major de l'armée est au cœur d'une tempête diplomatique pour avoir tenu des propos d'ordre politique. L'information revient à 15h sur Radio de la Paix, mais tout de suite la revue de presse de Mel Emmanuel.
Bonjour.